Chapitre 3. Les arbres avaient chassé le béton. Quand ils eurent quitté la départementale 906 au sud de Versailles, la végétation de la haute vallée de Chevreuse se resserra sur leur véhicule. Un atlas routier déployé sur les genoux, Philippe Vasquez guida Charcot dans le dédale de routes et de villages perdus jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin Saint-Forgé. Dans l'obscurité, le lieu semblait vidé de ses habitants. Ils trouvèrent facilement la place de l'église et le policier sortit pour repérer, sur un plan affiché derrière un panneau en plexiglas, l'adresse qui l'intéressait. Chemin de l'étang. À vue d'œil, c'était à environ 2 kilomètres à l'orée des bois. Au bout de 5 minutes, la R21 se gara à côté d'une Austin Mini, après s'être enfoncée sur une voie de cailloux. Charcot éteignit le moteur, mais pas les phares. Gants en laine enfilés, bonnet noir sur sa coupe en brosse, il demanda à son accompagnateur de ne pas bouger, saisit une maglight dans la caisse à outils du coffre et défit le fermoir de son holster, juste au cas où. Il fit le tour de l'Austin, puis s'avança vers l'habitation. Il n'avait jamais rien vu de tel. Il s'agissait de 2 énormes containers de transport d'au moins 3 mètres de haut, agencés en angle droit entre les arbres, en partie décorés de bois, sans la moindre fenêtre. Une volée de marches menait à une porte, en bois elle aussi. Sans voisin, presque invisible. Intégré à la forêt, pensa Franck. Une faible lueur rayonnait par le dessus, comme si la toiture plate était dotée de Vélux. La voiture, la lumière, il devait y avoir quelqu'un à l'intérieur. Il frappa du poing sans obtenir de réponse, s'assura qu'il n'y avait pas d'autre issue. Puis il revint à l'avant des containers et tourna la poignée, sans résultat. « S'il vous plaît, c'est la police !» Il se baissa, tenta, à l'aide de sa lampe, d'apercevoir quelque chose par la fente à courrier. Échoua. Que faire? Où se trouvait la gendarmerie la plus proche? Les alentours étaient totalement déserts. La femme de la photo était-elle encore attachée à son lit, affamée, déshydratée? Charcot refusait de perdre du temps. Il sortit son Manurin MR-73 du holster. Ça lui fit tout drôle de réaliser ce geste en dehors d'un centre de tir. Cette arme pouvait arracher une vie. Il adressa un signe à Vasquez, lui intimant de rester à sa place. Puis il recula d'un pas et, d'une vive impulsion, vint écraser ses 80 kilos sur la porte. Elle ne céda pas. Il dut s'y prendre à plusieurs reprises pour que, avec un craquement, le bois de l'encadrement explose enfin au niveau de la serrure. Une chaleur de four l'enveloppa sur le champ. Une simple ampoule allumée pendait au plafond. « Il y a quelqu'un ?» Il avait crié, davantage pour se rassurer. Il ramassa le courrier tombé au sol, juste sous la fente. Une facture d'électricité au nom de Delphine Escrémieux. Autour de lui, des dizaines de tableaux étaient entreposés, certains sur des chevalets. Des visages déformés, incomplets, des animaux cauchemardesques, étirés comme s'ils avaient fondu. Les pinceaux, les palettes, les tubes de peinture suggéraient l'atelier d'un artiste au goût morbide. Charcot resta sur le qui-vive. L'arme brandie, il chassa d'un coup sec des draps suspendus et découvrit une partie loft, coiffée d'une verrière carrée qui laissait deviner, dans la nuit, les hautes cimes des arbres. Les containers étaient aménagés de façon à créer un lieu de vie cosy. Salon, bibliothèque, coin cuisine. Tout paraissait normal, sauf l'odeur, encore subtile à cet endroit, mais suffisamment caractéristique pour que le flic renforce l'étreinte sur son revolver. Il passa un gant sur un chauffage électrique, poussé à fond. Une humidité anormale lui trempait le front et lui donnait l'impression d'évoluer dans une jungle. « C'est quoi ce bordel ?» En s'avançant vers une porte entrouverte qui permettait d'accéder à l'autre bloc, il perçut des bruissements. Une mouche venait de le frôler. Elle alla se coller contre la verrière. La fameuse mouche à viande bleue aux reflets irisés, de celle qu'on trouve sur les cadavres au moment de la putréfaction. Charcot sut que la mort l'attendait, là derrière, et qu'elle ne serait pas belle à voir. Impossible de faire demi-tour, la machine était en marche. L'excitation fit place à l'angoisse et il regretta, l'espace d'un instant, sa venue ici, seul, sans collègue et hors juridiction. Un excès de zèle qu'il risquait de payer cher. Il s'aventura dans le second espace. Couloir, salle de bain, puis arriva dans la chambre. L'odeur lui agressa les narines, à la limite du supportable. Il enfonça un interrupteur du coude. Son premier choc visuel fut le spectacle de ces fichues mouches, agglutinées par dizaines en taches sombres. 2 radiateurs électriques encadraient le lit, diffusant une aura rougeoyante, et un troisième fonctionnait près de l'entrée. Des casseroles dans lesquelles stagnait de l'eau jonchaient le sol. Le jeune policier s'approcha, le dos d'une main plaqué sous le nez, l'autre chassant les insectes. Entre la chaleur et l'air moite, il se liquéfiait sous ses vêtements. Des taches rouges marron, poisseuses, imbibaient la couette au niveau de l'entrecuisse et de la poitrine de la victime. Une fraction de seconde, ses yeux se posèrent sur les clichés en noir et blanc, répartis sur le mur derrière le corps allongé. Des dizaines d'enfants nus, garçons et filles. Du bout des doigts, il décolla le sac en papier du menton du cadavre. Il découvrit son visage et eut un mouvement de recul. Défoncé, tuméfié. Déjà assombri sous l'effet de la putréfaction. Charcot hoqueta lorsqu'une mouche apparut entre les lèvres, butina de sa trompe la pulpe blanche et s'arracha d'un vol lourd dans les airs. Il partit à reculons, butant contre une casserole puis l'encadrement de la porte. Le souffle court, il se rua dans le salon où il chercha un téléphone, en vain. Une fois dehors, il respira avidement l'air pur, puis, livide, courut jusqu'à la Renault 21. Il entendit à peine son passager qui venait aux nouvelles. Il lui fallait trouver une cabine au plus vite.